Alors bonjour à tous, je vais vous proposer un corrigé de du poème Une charogne de Charles Baudelaire sous forme de fichier audio. Je vais commencer par lire le début et je ne vais pas faire une lecture complète sinon c'est trop long, mais au moins pour se remettre dans l'ambiance et ensuite je vous propose l'explication de texte. Donc le début ça fait ça. Rappelez-vous l'objet que nous vîmes, mon âme, ce beau matin d'été si doux, au détour d'un sentier une charogne infâme sur un lit semé de cailloux. Les jambes en l'air comme une femme lubrique, brûlante et suant les poisons, ouvrait d'une façon nonchalante et cynique son ventre plein d'exhalaisons. Voilà, ce sont les deux premières strophes. Il y en a un certain nombre, il y a beaucoup de strophes. Mais je commence donc par l'introduction. Donc Charles Baudelaire, c'est un poète du 19e siècle qui a la croisée de plusieurs courants littéraires et artistiques, le symbolisme, le Parnasse et le romantisme. C'est un auteur qui s'est distingué dans plusieurs domaines, aussi bien la poésie que la critique d'art. Il a écrit beaucoup de textes sur la peinture et le dessin. Et il a aussi collaboré en un sens à l'œuvre d'Edgar Allan Poe puisqu'il a été son traducteur en français. Donc c'est un auteur prolifique, important, mais aussi en quelque sorte maudit puisqu'il a eu une destinée assez malheureuse et qu'il est mort assez tôt. Charles Baudelaire, dans Les Fleurs du Mal, il propose une poésie radicale, subversive, qui est marquée par l'obscurité, puisque dès le titre, hein, c'est programmé, Les Fleurs du Mal, donc il s'agit de trouver le beau là où on ne le cherche pas d'habitude, trouver la beauté, donc les fleurs, du côté du mal en l'occurrence. Dans ce poème Une charogne, on a un peu l'emblème de cette recherche qu'on pourrait dire alchimique, dans le sens où l'alchimie, c'est qu'on cherche à transformer un métal banal en or. Baudelaire pouvait concevoir comme de cette manière son entreprise poétique, transformer le quotidien, voire le laid ou l'infâme en beauté. Et donc dans Une charogne, il s'applique à faire un portrait de cadavre pour néanmoins en faire naître de la poésie. Donc c'est la problématique qu'on va traiter, elle sera la suivante. En quoi est-ce que ce poème s'applique à faire d'un objet repoussant un sujet de poésie? Dans un premier temps, nous allons étudier la première partie du poème qui va de la première strophe à la deuxième strophe et qui est une invitation au regard, à la contemplation. Puis nous passons à la description qui ressemble un peu à une ekphrasis, à savoir à la description d'une œuvre d'art, qui va de la troisième strophe à la sixième strophe. Puis de la septième strophe jusqu'à la fin, nous avons une évocation poétique, une transformation poétique du cadavre en symbole poétique. Donc dans un premier temps, nous allons traiter de l'invitation au regard. Cette invitation, elle s'ouvre sur une apostrophe qui utilise l'impératif « Rappelez-vous l'objet que nous vîmes, mon âme ». Donc l'apostrophe, c'est « mon âme », l'impératif, c'est « rappelez-vous ». Il s'agit d'une invitation à la contemplation, mais à la contemplation passée, puisque nous sommes avec les temps du passé, avec le passé simple « nous vîmes ». Et c'est une contemplation commune, puisque le « nous » désigne le poète et « mon âme », c'est-à-dire alors soit une femme aimée, ou un être cher qu'il désigne comme son âme, soit une invitation à lui-même, à se remémorer un souvenir et en faire l'objet d'une contemplation rétrospective. Le cadre spatio-temporel est posé, puisque au niveau du temps, on a le complément circonstanciel, ce beau matin d'été si doux en vers 2, et au niveau du lieu, on a le détour d'un sentier, autre complément circonstanciel, cette fois-ci de lieu, au vers 3. Enfin, nous avons dès le départ des connotations négatives avec infâme, charogne, caillou, lubrique, brûlante, suant, poison, nonchalante, cynique, exhalaison. Donc sur l'ensemble de ces deux premières strophes, qui sont par ailleurs hétérométriques, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas le même nombre de syllabes par vers en fonction des vers, ça crée un effet de décalage, de bizarrerie. Bien, sur ces deux premières strophes, on a déjà énormément d'indications d'une connotation négative, d'un sujet vu négativement et repoussant. On a même un champ lexical de la mort, hein, avec charogne, poison, et puis ventre, exhalaison, auquel s'associe d'ailleurs un champ lexical de la lubricité, c'est-à-dire de la sexualité presque diabolique, hein, pas du tout belle ou érotique ou sensuelle, mais au contraire plutôt glauque, plutôt négative, avec lubrique, brûlante, suant, nonchalante, un ventre qui ouvre les jambes en l'air, c'est quand même assez vulgaire, assez grossier pour la poésie de l'époque, et le ventre plein, voilà, d'exhalaisons, c'est-à-dire en fait de pourriture et d'odeur de pourriture. Donc ça, c'est pour la première partie de ce texte. Deuxième partie de ce texte, qui commence donc à la troisième strophe, qui finit avec la sixième strophe, il s'agit ici de décrire proprement l'objet qui va devenir un objet poétique. Alors, la description, elle est marquée par l'utilisation de l'imparfait de l'indicatif. Le soleil rayonnait, le ciel regardait, donc ça, ce sont les deux premiers vers des strophes 3 et 4. Les mouches bourdonnaient, premier vers de la strophe 5, et tout cela descendait, montait, premier vers de la strophe 3, 4, 5, 6. Donc toutes ces strophes commencent par un sujet, le soleil, le ciel, les mouches, tout cela, associé à un imparfait de l'indicatif rayonnait, regardait, bourdonnait, descendait, dont certains sont d'ailleurs des verbes de vision. Hein. Rayonnait, regardait, on en appelle à quelque chose qu'on peut voir. Donc le ciel rayonnait, on en appelle à la lumière cette fois-ci, et le ciel regardait, on a ici une personnification du ciel, comme si le ciel pouvait regarder quelque chose. Donc on a le même dispositif à chaque strophe, ce qui crée une grosse unité pour ce passage. Et on a un certain nombre d'indications sur vraiment le détail de ce qui peut devenir un tableau, pratiquement le tableau d'un cadavre en fait. C'est pour ça qu'on peut parler d'ekphrasis, ça s'écrit E-K-P-H-R-A-S-I-S, c'est un mot grec, donc E-K-P-H-R-A-S-I-S, ça désigne la description détaillée d'une œuvre d'art, que ce soit un tableau ou une sculpture. Donc là, on est un peu entre les deux, c'est un souvenir, donc c'est une image en deux dimensions, mais en même temps, ça a été un objet en trois dimensions, donc on est un peu entre les deux. Et donc, comme Baudelaire a été lui-même critique d'art, c'est cohérent de parler d'ekphrasis ici. Alors, qu'est-ce qu'il a en fait cet ekphrasis ? Eh bien, en fait, il associe, et ça c'est propre aussi au symbolisme, à la vision d'autres sens, qui sont notamment l'odorat, et donc ces sens dans une synesthésie, c'est le terme qu'on utilise pour Baudelaire, donc l'associant de plusieurs sens, une synesthésie, vont évoquer de manière très forte, de manière plus intense, une image, une sensation, une émotion. Donc ici nous avons l'image avec rayonnait sur cette pourriture, avec l'idée de la lumière, mais aussi le toucher avec afin de la cuire à point, donc là une sensation de chaleur qu'on avait déjà un peu au-dessus. Hein. La vision revient avec le ciel, regardait la carcasse superbe comme une fleur s'épanouir, mais on a aussi l'odorat avec la puanteur était si forte, et puis la sensation générale, l'émotion avec vous crûtes vous évanouir. Donc à ce moment-là du texte, on comprend que le poète n'était pas tout seul. Il ne parle pas normalement à lui-même, puisque s'il y a quelqu'un qui a failli s'évanouir, on peut supposer qu'il était avec plutôt, là en l'occurrence une femme, puisqu'on associe au 19e, plutôt l'évanouissement à la femme qu'à l'homme, à tort ou à raison. Donc ça semblerait indiquer qu'il n'était pas tout seul et qu'il parle à une femme qu'il désignerait comme mon âme, ce qu'il fait souvent d'ailleurs dans ses poèmes. Bon, après, dans l'absolu, c'est pas un indice radical. Hein. Donc les mouches bourdonnaient, là, cette fois-ci on a le Louis qui est évoqué. Encore la vue avec noir bataillon de larves, et puis on a plutôt la texture et donc le toucher avec qui coulait comme un épais liquide. Donc là, c'est assez repoussant, mais ça reste néanmoins un appel au toucher. Donc dans ces strophes, et dans la dernière, on a plutôt l'impression générale montait comme une vague avec la comparaison, où c'est lancé en pétillant, on a aussi la vue et le toucher, et puis le corps enflé d'un souffle vague vivant en se multipliant. On a un commentaire général là, qui symbolise l'ensemble de l'impression, enfin qui synthétise plutôt l'ensemble de l'impression, qui est bien sûr une expression forte, très liée à la mort, et on a presque un rappel du titre, puisque au deuxième vers de la quatrième strophe, si je me trompe pas dans mon comptage. Oui, notre quatrième strophe, on a comme une fleur s'épanouir. Donc en fait, on a le titre Les fleurs du mal, et là aussi, là ici, le cadavre est comme une fleur qui s'épanouit. Donc on a bien sûr un lien fort entre ce poème et l'ensemble du programme que suit Baudelaire dans son recueil. Donc en conclusion de cette deuxième partie, on peut indiquer que Baudelaire fait appel à une synesthésie pour faire l'extrasis d'un cadavre qui devient par son écriture un objet poétique. Et puis dans une troisième et dernière partie, on passe à l'interprétation proprement poétique de ce cadavre qui va donner lieu chez Baudelaire à un retour au Carpe Diem antique et renaissant, puisque le Carpe Diem, ça veut dire cueille le jour, c'est une phrase d'Horace, un poète antique, qui a été beaucoup reprise à la Renaissance, notamment par Ronsard et par la Pléiade, et qui associe donc à l'idée de mort imminente l'idée de profiter du jour présent, d'aimer, de jouer au quotidien. Alors, on serait tenté de penser que c'est ce qui va. C'est la voix que va prendre Baudelaire, comme tous les poètes finalement, et en ce sens il se rattacherait à une tradition. En l'occurrence, c'est bien vers cela qu'il tend, puisqu'on va avoir dans les dernières strophes « Et pourtant vous serez semblable à cette ordure, à cet horrible infection », donc on trouve vraiment des accents de Ronsard là-dedans, comme par exemple dans Mignonne, allons voir si la rose, « Étoile de mes yeux, soleil de ma nature, vous mon ange et ma passion, oui, telle vous serez, ô la reine des grâces, après les derniers sacrements, quand vous irez sous l'herbe et les floraisons grasses, moisir parmi les ossements, alors ma beauté diteuse à la vermine qui vous mangera de baisers que j'ai gardé la forme et l'essence divine de mes amours décomposés. » Donc on a quelque chose de très classique là en fait, puisque là on a la confirmation qu'il n'était pas tout seul et qu'il parle bien à une femme, et que s'il lui parle de ce cadavre, c'est à une fin argumentative, c'est afin de finalement la convaincre de lui de la grandeur de son entreprise poétique. Alors c'est là où il est un peu original, c'est-à-dire que d'habitude les poètes qui parlent de la mort à des jeunes femmes ou à des femmes aimées le font pour les convaincre de céder à leurs avances. En général c'est plutôt une entreprise de séduction. Là, Baudelaire subvertit cette tradition puisqu'il s'agit pour lui de convaincre l'interlocutrice de la grandeur de sa poésie. « J'ai gardé la forme et l'essence divine de mes amours décomposés. » Donc, les amours décomposés, c'est elle quand elle sera décomposée. Et il en aura enlevé, il en aura retiré la forme et l'essence divine, donc ce qui va être éternel. Et c'est par la poésie, par l'écriture poétique qu'il va transformer l'éphémère, le mortel, en immortel, en éternel. Donc il fait aussi œuvre d'alchimiste en cela, puisqu'il transforme non seulement le lait en poétique, mais il transforme aussi le péremptoire, l'éphémère, le matériel, en quelque chose d'éternel, de divin et d'essentiel. Donc on a un rappel de cette entreprise poétique dans cette dernière partie qui, par ailleurs, fait bien le rapport avec l'art, avec la peinture, une ébauche lente à venir sur la toile oubliée et que l'artiste achève seulement par le souvenir. Donc là, il fait bien un parallèle entre son entreprise poétique et ce que fait un peintre quand il peint, quand il dessine, c'est-à-dire fixer un souvenir et rendre, là encore, le transitoire éternel. Donc on a dans cette dernière partie une transformation de l'objet laid et repoussant en un objet de contemplation et de réflexion, en fait pratiquement philosophique et en tout cas clairement artistique de la part de Baudelaire. Alors en conclusion, on peut indiquer que nous avons vu dans ce poème la volonté affichée par Baudelaire de faire œuvre d'alchimiste à travers sa poésie. En effet, dans un premier temps, il invite son âme, qui pourrait être à la fois une invitation pour lui-même mais aussi pour son interlocutrice, à se rappeler d'un événement important, marquant. Cette invitation, c'est une invitation à la contemplation rétrospective, puisque c'est un souvenir qui invoqué, qui est convoqué. Dans un deuxième temps, il va procéder à la description comme dans une extrasis de cet objet, de cette matière, de ce cadavre, en ayant recours aux synesthésies, Et puis enfin, il va interpréter de manière symbolique ce cadavre et cette rencontre malheureuse pour lui donner des accents poétiques propres à la fois à la tradition poétique de ses prédécesseurs, mais aussi propres à sa propre, à sa démarche personnelle, qui est une démarche de glorification, de sacralisation de l'art. On peut finir, conclure, en indiquant que en cela, il va être suivi ou imité ou rejoint, puisque les autres poètes n'ont pas toujours lu ce poème, mais par d'autres poètes du 19e, comme par exemple Rimbaud, qui procédera à la même désacralisation de la beauté traditionnelle dans Vénus Ania Domaine ou dans ses poèmes en prose, où notamment il dit j'ai assise la beauté sur mes genoux et je l'ai insultée. Pour montrer que la poésie au 19e change de paradigme, change de définition, et qu'on va chercher la beauté là où elle ne se trouvait pas, elle se trouve pas immédiatement, spontanément, et là où on n'allait pas la chercher auparavant. Et en cela, le poète a bien conscience de faire une œuvre d'originalité. C'est d'ailleurs comme ça qu'on va définir de plus en plus l'artiste au 19e, à savoir comme quelqu'un de profondément original.